Rectangle Podcast.
J'ai choisi Jérôme Minière.
Ah, Jérôme Minière, oui, ouais. Qui incarne vraiment. Alors là, la période, c'est quoi, fin 90, comme ça de...
Ouais, je crois que là, on est vers 1995 ou 6, par
la
là.
La pop française se renouvelle un peu.
En tout cas, voilà, j'écoute le disque de ce garçon sans rien savoir. Je me dis, waouh, c'est génial, je le veux absolument dans l'émission 5 heures dont tu évoquais tout à l'heure le souvenir. Et je sais pas, tout à coup, on s'entend bien. Il y a des trucs comme ça qui se passent parfois. Ce qui est bien avec la radio, c'est que quand tu diffuses un disque, à ce moment-là, tu es en off avec la personne qui est devant toi et tu sais tout de suite si ça clique ou pas. Mm-hmm. En presse écrite, tu fais record, tu fais l'interview, mais tu n'as jamais un moment qu'on va appeler un temps mort à combler et tu ne sais jamais si effectivement il y a une alchimie qui se passe. Voilà. Et souvent, je me souviens à la radio, c'est pendant le premier disque, si ça se passait bien, ce qu'on avait à se raconter hors antenne, si ça se passait bien, je savais que l'interview serait réussie. Si ça se passait moyennement bien ou pas du tout, je me disais que j'allais ramer. Voilà. Et avec lui, hop, ça a cliqué tout de suite. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, parce qu'il est montréalais, Jérôme Minière.
Il est retourné là-bas, je pense. Ouais, il sort encore régulièrement des albums.
À un moment donné, il me parle comme s'il me connaissait bien. Et je me rends compte qu'en fait, c'était un fan de l'émission, parce que c'est un étudiant québécois qui avait étudié à l'INSAS et donc il avait passé pas mal de temps à Bruxelles et donc était un auditeur de l'émission. Donc quelque part, moi j'étais super content de le recevoir parce qu'il avait fait un beau disque, voilà. Et lui était content de venir parce qu'il était dans une émission qu'il écoutait, mais sans le savoir, voilà. Et donc il y a une espèce d'alchimie comme ça qui s'est passée et c'est quelqu'un que j'ai essayé de continuer à suivre parce que, alors là, à propos de Niche et de prendre le maquis, lui aussi il a fait des disques hyper confidentiels sur des albums des albums sortis sur des labels ultra niche canadien qu'on peut trouver, mais parfois soit maintenant peut-être sur des SoundCloud ou des Bandcamp, mais c'était un peu compliqué à suivre à une époque. Et là, je crois que cet album était sorti sur Diabologum, qui était un label français.
Ouais, sur Lithium.
Lithium, il y avait le groupe Diabologum qui était sur Lithium.
Oui, entre autres, je crois, voilà. Dominica aussi au début, c'était voilà. Mandelson, tous ces groupes.
Oui, voilà. Lithium, exact. Voilà, et cet album était sorti sur Lithium. Je crois que c'était le premier album de Jérôme Minière. Il ouvrait par une chanson qui s'appelle Un avis de défaite. Et je trouvais ça formidable parce qu'il parlait autant qu'il chantait. C'était d'une simplicité. Et en écoutant ça, n'importe qui est un peu sensible à la production, au climat dans les chansons, c'est-à-dire à peu près tout le monde, hein, voilà, sinon on n'écouterait pas de musique, tu te dis, ah ouais, ça c'est vraiment le genre de truc que j'aurais envie de faire, et ça a l'air tellement simple, mais c'est vraiment habité par, de nouveau, on est sur la musique, les paroles, et un personnage qui véhicule les deux, et qui sublime, et qui transporte ça beaucoup plus loin, alors que c'est d'une simplicité, on sent bien que c'était fait sur un 4 pistes dans une cuisine, mais qu'est-ce que ça sonne et qu'est-ce que ça fonctionne ?
Oui, il faut dire aussi qu'on a une époque où la technologie n'est pas encore ce qu'elle est, et donc enregistrer sur un 4 pistes, bon, il y a l'économie de moyens et tout ça, mais c'est aussi un parti pris esthétique qui est défendu. Et en français, c'était la première fois que des gens comme Dominica ou Miossec, etc., ouais, arrivaient avec des productions.
Exact.
Enfin, pas la première fois, mais c'est un courant qui revenait un peu.
En sachant aussi qu'il y a des gens, ils ne sont jamais aussi bons qu'en maquette. Mm-hmm. Il faut rien toucher. C'est le premier jet, quelque part, est le bon. Et passé une vitesse supérieure, on perd la chanson en route. Au lieu de l'améliorer, d'augmenter le potentiel, de l'enrichir, on l'appauvrit et elle finit par se noyer dans du caramel. Il faut savoir où s'arrêter aussi quand on passe au stade de la production après les maquettes. Et certains ne sont jamais aussi bons qu'en maquette, il ne faut pas aller plus loin. Mais effectivement, ça ne correspond pas forcément, pas toujours, à des standards qui sont attendus dans un monde radiophonique ou un monde médiatique qui aime bien avoir les oreilles flattées avec certains standards et certaines normes. Oui, ça c'est sûr.
Écrire une chanson ou autre chose sur toutes ces jeunes Montréalaises, seules avec leur chien. Un symptôme de liberté, cette espèce de liberté actuelle, la liberté aveugle et consommatrice. Mais en somme, avoir un gros chien, quand on est un jeune homme, ou une jeune femme peut-être, pour ne pas être seul, c'est déjà un avis de défaite, c'est déjà un avis. si libre, nous n'aurions même pas besoin de chien pour remplacer notre homme, peut-être notre femme, ou même quelqu'un d'autre. Pour remplacer quoi ? C'est déjà un avis de défaite, c'est déjà un avis de défaite. C'est déjà un avis de défaite, c'est déjà un avis de défaite. C'est déjà un avis de défaite, c'est déjà un avis de défaite. Les ensembles. Avoir un gros chien, c'est déjà un avis de défaite. Mais en somme, avoir un gros chien, c'est déjà un avis de défaite. Mais en somme, avoir un gros chien, c'est déjà un avis de défaite. Mais en somme, avoir un gros chien, c'est déjà un avis de défaite.
Puisqu'on sort de l'indie, je propose alors qu'on vire de bord complètement avec Corinne Charby.
Ah oui, là on sort de l'indie.
Et Boule de Flipper.
Quoique, si on écoute les titres qui reviennent à la mode chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est une chanson qui pourrait...
Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on l'écoute pour les bonnes raisons. Je vais juste dire une chose sur Corinne Charby, en dehors du fait qu'avec Pile ou Face et Boule de Flipper, c'est quand même deux items qui sont absolument incroyables, deux chansons absolument formidables. Et ce qu'on sait peu, c'est que Boule de Flipper, la musique a été écrite par Christophe.
Ah oui.
Et donc, quand on le réécoute, on se dit « Ah ouais, quand même, les chiens ne font pas des chats ».
Corinne Charby, pour ceux les plus jeunes qui nous écoutent, c'est quoi ? C'est de la variété ? C'est de la pop ?
Au départ, c'est une fille qui est mannequin, qui a tourné dans quelques films, dont je crois que c'était La Chèvre, hein, avec Pierre Richard et
Depardieu.
Ouais, voilà, elle faisait la fille de Depardieu, qui était une gaffeuse de première, et Depardieu engageait Pierre Richard pour essayer de la retrouver. Voilà. Et elle a aussi enregistré quelques chansons. Mais là, de nouveau, c'est des chansons écrites sur mesure. Et on a de nouveau le triangle parfait entre une musique qui est top, le texte qui colle bien et l'interprète, évidemment, qui est parfaite, puisque c'est du sur mesure. Hein, ça a été écrit pour elle. Et puis aussi, ce qui n'est pas... à négliger, c'est qu'elle a aussi fait quelques belles pages dans le magazine Lui.
Ah bah oui, ça c'est...
Ouais, Corinne Charmy, voilà.
C'est un atout supplémentaire.
C'est un atout supplémentaire, voilà.
Et Boule de Flipper, ça parle de quoi ça? De Boule de Flipper, tu me diras.
Ah bah, il faut
que... Il n'y a pas de deuxième,
voilà.
J'ai remarqué un truc, c'est que les voix...
Elle dit qu'elle est tiraillée entre plusieurs choses, elle est comme, ouais, elle est comme boules, une boule de Flipper qui roule, voilà, qui est rejetée d'un bumper à l'autre, voilà, en espérant faire une part gratuite et ne pas faire tilt.
Les voix dans les morceaux des années 80 sont quand même beaucoup plus dans le mix quand je réécoute les 40 Latour que maintenant.
Oui.
Je sais pas pourquoi les gens sont... C'est une question de style ou c'est juste que les gens ont des oreilles moins...
Je crois que la musique avec les batteries Simone, c'était très envahissante. Je crois que c'est pas la voix qui est moins,
c'est la batterie
moins
qui
présente. Oui, c'est le backing qui est beaucoup plus présent. Qui est moins subtil, quoi. C'est elle plutôt... voilà. C'est une époque qui n'est pas très subtile.
Je ne l'ai pas connue. Enfin,
mais
j'ai connu,
qui n'en est pas pour autant moins créative. Voilà. En fait, les années 80 ont vraiment été traînées dans la boue par les années 90 et par les années 2000. Oui. Et il a fallu longtemps avant de les réhabiliter et de leur trouver un potentiel intéressant et créatif. Hein. Les années 90, c'est venu très vite. Années 2000 aussi. Années 70 aussi. Les années 80 ont eu mauvaise presse pendant très longtemps parce que c'était clinquant. Il y avait du fluo, il y avait des paillettes, ouais, il y avait des choses comme ça qui paraissaient un peu superficielles. Si tu prends la trajectoire d'un mec comme George Michael, je trouve qu'il colle parfaitement aux années 80. C'est dénigré, et puis après c'est réhabilité, jusqu'à ce que ça soit avec sa mort sanctifié. Voilà. Mais il y a un parallèle qui est assez juste avec sa carrière et l'époque.
Oui, et moi je trouve que certains trucs qu'on entend en pop français maintenant sonnent vraiment...
années 80. Mort. Il y a une, c'est pas toujours très réussi.
Fishback, par exemple, j'ai entendu ça, je me disais, c'est nouveau ça. Ouais.
Tous mes beaux châteaux d'Équateur.
Radio Rectangle, Corinne Charby.
C'est bien.
Boules de flipper, les années 80.
Boules de flipper. Ouais, non, il faut voir le clip, évidemment, ah ouais, oui, parce que voilà.
Non, non, c'est très très bien, hein. C'est une très bonne chanson. On l'écoute d'ailleurs souvent avec Marc, d'ailleurs.
Ah ben voilà. Voilà. Bureau, donc, musique de Christophe.
Musique de Christophe.
Ouais, on le sait peu.
À cause des garçons, c'est une musique d'Alain Chamfort.
Alain Chamfort, oui, oui. J'ai failli prendre
c'est une bonne chanson aussi, hein, ça.
Tout à fait. J'ai failli prendre un titre d'Alain Chamfort de l'album Rock'n'Rose, qui est un album un peu. C'est le premier album qu'il a fait avec Gainsbourg, puisqu'il en a fait trois. Et le premier est passé un peu plus inaperçu. Et sur cet album, il y a un truc qui s'appelle Joujou à la casse, qui est vraiment très très bien. Ouais. Voilà, mais je n'ai pas pris.
Suivant.
Suivant.
Next, comme
alors,
disait.
Oui, Next.
Next.
Ah oui, alors Jean-Michel Karadec.
Ah oui, ah tiens, oui. Oh, oh.
Je suis un fan inconditionnel de Jean-Michel Karadec. Personne ne se souvient de qui est Jean-Michel Karadec, j'imagine. Donc c'est un chanteur breton, un peu folk, baba, habillé avec des pulls tricotés maison, ou alors des gilets en mouton retourné, là, qui faisait les premières parties à l'époque de Maxime Le Forestier, voilà. Et ce garçon, qui est vraiment du terroir, a eu des hits, je pense, accidentels, dont le premier, ou un des premiers, en tout cas le plus important, est Il, qui est un truc qu'il chantait a cappella au début. Et je me souviens, à cette époque-là, donc on est dans les années 72, 73, par là, ou même 71, je me souviens avoir entendu Il en boucle à la radio dans la voiture de mes parents, parce que c'était la Toussaint, on allait de cimetière en cimetière déposer des fleurs, et à chaque fois qu'on remontait dans la voiture, Il, parce que ça passait en boucle sur les radios. Mais à l'époque, il y avait des trucs incroyables qui tournaient en radio, parce qu'on dit ouais, non, c'était formaté, tout ça, mais pas vraiment. C'était des chansons qui étaient un peu à côté de la plaque. Il y avait aussi Pierre Vassilou avec Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là, ou même Yves Simon, dont on reparlera après, Au Pays des Merveilles de Juliette, qui étaient quand même des chansons, ou Jérémy New York, qui étaient quand même des chansons qui n'étaient pas vraiment dans le standard Karen Cheryl et Sheila. Il y avait de la place un peu pour des choses assez différentes. Et alors, j'aimais beaucoup cette chanson de Jean-Michel Karadec, Il, et j'ai découvert après tout le répertoire de Karadec, qui je trouvais absolument incroyable. Et notamment, il y a une chanson qui s'appelle Ma petite fille de rêve, qui je trouvais est absolument extraordinaire, que je mets en parallèle avec une chanson de Michel Delpech que j'aurais pu choisir aussi, qui s'appelle La fille avec des baskets. Et je trouve que c'est comment expliquer, on dirait de la poésie qu'on écrit dans des cahiers quand on a 14 ans, comme ça. Il y a une espèce de naïveté, mais en même temps de sincérité, c'est assez cash. Le vocabulaire est extrêmement joli, châtié et bien choisi. C'est plein de jolies images et ça dit vraiment beaucoup de choses avec peu de en peu de mots, en peu de phrases. Voilà. Jean-Michel Karadec, j'ai un best-of à la maison que j'écoute très 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 souvent. Je me souviens à une époque, je devais repeindre un plafond et je me lasse assez vite de ce que j'écoute. Et donc, j'avais pas envie de descendre de l'échelle tout le temps. Mais je savais qu'en mettant le Jean-Michel Karadec,
tu faisais tout.
Je faisais tout sans devoir descendre de l'échelle. J'avais aucun problème par rapport à ça.
Et on enchaînerait Jean-Michel avec Yves, par exemple.
Ah, on pourrait faire ça.
Ça serait bien.
Alors, Yves Simon, évidemment, dans la même veine, j'ai choisi Diabolomante, qui est donc la chanson du film de Diane Curis.
Avec une fretless, là.
Ouais, c'est absolument incroyable. J'aime pas du tout Yves Simon. Je n'ai jamais lu un seul de ses romans. Je trouve que c'est un arrogant prétentieux parisien, café de flore. Mais musicalement, il y a deux ou trois choses qui sont quand même des espèces de fulgurances qu'on doit lui laisser, dont ce Diabolomante. Là aussi, le texte est incroyable, vraiment incroyable, et surtout indissociable d'un film qui pour moi est culte, qui est donc ce Diabolomante de Diane Curis, qui fait partie d'une trilogie, hein, avec aussi La Boule des Pins, et qui est vraiment un très 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 beau film, et une chanson absolument magnifique. Là, on n'est plus sur un triangle, on est sur un carré, hein. Il y a les paroles, il y a la musique, il y a l'interprète, il y a le film qui va avec, et tout ça, c'est un tout qui est absolument tiré au cordeau et qui est absolument impeccable.
Oui, il y a des cas d'école comme ça en film où l'interprète, par exemple Yann Tiersen.
Oui.
Ça, c'est le
Amélie
Poulain, ça, c'est quelque chose de. Un cas d'école, par exemple, dans l'industrie.
Oui. On adhère ou pas.
Hein.
J'adhère pas, mais effectivement, ça, c'est. Oui. Ça, c'est la Dream Team. Hein. On est sur un truc absolument parfait.
Yves Simon, qui est aussi un peu le roi du name dropping, hein, avant les rappeurs, etc., il citait dans ses chansons de nombreuses références.
Oui.
D'ailleurs, quand on écoute son best-of, il y a de. peux faire une liste sur chaque chanson de...
Mais il parle des gens pour en dire du bien ou pas forcément du bien?
Je crois que c'est plus pour situer l'époque. C'est ça. C'est un peu comme si quand il fait On fumait des gauloises bleues, il name drop Rabot, Verlaine.
Oui, ou il citait aussi Zelda Fitzgerald.
Voilà,
dans
c'est
chanson,
ça.
J'ai lu des livres, je veux que ça se sache. Oui, c'est ce qui m'énerve un peu chez le personnage. Voilà, et ce côté vieux beau comme ça. Mais néanmoins, dans l'ensemble. Deux, trois fulgurances de chansons qui sont. On va pas bouder le plaisir.
T'as pas la bouche rouge, t'as pas les yeux charbon noir, t'as pas les ongles peints naturels. Ton palais c'est ta chambre, mon Noël c'est décembre, quand les nuits sont longues et qu'on habite au ciel. Ma petite fille de rêve, même si tu veux pas, je t'enlève. Je prendrai tes dentelles, ton ventre d'hirondelle, que je caresserai jusqu'au matin. Quand je ferai fortune, je te paierai la lune, mais même toutes les étoiles du ciel. Ma petite fille de rêve, même si tu veux pas. Je n'ai rien à te donner, mais je peux tout inventer. Je pourrais même te faire un enfant. Je suis un saltimbanque qui se moque des banques. Ma richesse, c'est mes chansons et c'est toi. Ma petite fille de rêve, même si tu le pars, je t'enlève. Rouge, t'as pas les yeux charbon noir, t'as pas les ongles peints et naturels. Ton palais c'est ta chambre, mon Noël c'est décembre, quand les nuits sont longues et qu'on habite au ciel. Ma petite fille de rêve, même si tu le parles, je t'enlève. Tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, dans tes classes de lycée. Y'a du sang et y'a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Que tu mentes autour des diabolos mentes quand tu racontes les nuits du dernier été
et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant dans tes classeurs de lycée. Y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches petite Anne.
Yves Simon, formidable. Sur Radio Rectangle.
Et juste avant, Jean-Michel Karadec.
Et Jean-Michel Karadec.
Ça, c'est beau, hein, Jean-Michel. Moi, j'invite tout le monde à redécouvrir Jean-Michel Karadec, qui est mort. Il était vraiment en pleine ascension. Il est mort dans un accident de voiture, vachement jeune. Mais ce qu'il a laissé, c'est. Enfin, voilà. Invitation à la découverte.
On partagera le lien du coffret, d'ailleurs, que tu as. Parce qu'on le trouve toujours, ce beau coffret Karadec.
Je suis
peut-être
pas
Amazon,
sûr.
Je vais regarder.
Ouais, non, c'était sur une vieille collection Best of chez Polygram qui s'appelait Les Essentiels de.
Ah oui, les Essentiels.
Oui. Mais voilà, et je pense qu'il y a un travail de patrimoine et de répertoire à faire sur des chanteurs comme ça, où il faut aller rechercher vraiment tous les albums avec les plages cachées.
J'entendais un discours de Pascal Nègre que je trouvais pas complètement inintéressant, qui parlait du streaming. Je sais pas si tu as entendu ça.
Bah, une fois n'est pas coutume. Non.
Oui. Il disait pour une fois un truc qui est pas con. Il disait que bah voilà, pour le moment. Quand c'est les abonnements payants sur Spotify ou autre, ils prennent le chiffre d'affaires et ils le distribuent à ceux qui sont, à tout le monde, dont ceux qui sont le plus écoutés, quoi. Et il disait que cette politique-là.
Ça, c'est quand c'est mal fait. Normalement, on doit avoir une statistique précise à la pièce et chacun doit être rétribué pour ce qui lui est dû réellement.
Voilà, mais dans la pratique. Voilà,
on ne doit pas faire une moyenne. Ouais, ouais.
Et cette moyenne, il disait, pose une question justement sur la gestion des catalogues qui disparaissent évidemment vu que ceux qui ont le plus de flux sont les musiques qui sont les plus écoutées. Je trouve pas assez. Qui n'est pas une idiot pour une fois.
Oui.
Parce que c'est la première fois qu'on parle de gestion de catalogue dans un cadre de streaming.
Bah c'est l'âge.
C'est
quand même chez Pascal, c'est l'âge.
C'est sans doute l'âge, quoi. Et donc c'est vrai que voilà, moi je regarde parfois des chanteurs comme Karadec sur Spotify ou d'autres. Quand on regarde le nombre d'abonnés et d'écoutes.
Non, ne me fais pas croire que tu as vérifié le streaming Karadec sur Spotify.
Je vérifie ce truc, c'est mon métier.
Je ne peux pas croire. Il n'y a que moi qui vais écouter Karadec sur Spotify.
Allez, qu'est-ce qu'on écoute maintenant donc?
On est à la fin déjà. Hein.
Oui.
Voilà, j'ai vu. Le dernier titre. Alors ça, j'ai gardé, je ne vais pas dire le meilleur pour la fin, mais ce qui me tient le plus à cœur pour la fin, un bon Jalansky.
Ah, ben voilà. Oui. Jalansky.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne sais pas ce qu'on peut raconter sur Jalansky. Explique, tu expliqueras ça mieux que moi.
Jalansky, c'est un personnage.
Donc c'est un auteur, compositeur qui a travaillé pour des chanteuses en one shot. Souvent c'était un 45 tours comme ça. Mm-hmm. Il a fait des trucs comme Anis et Alvina. Il a fait Melvina Melville qui était la copine de Patrick Devers à l'époque. Il a fait, je sais pas, Sandrine de Crozant. Enfin,
il vient du rock aussi, hein, quand même.
Il vient avec les Beautiful Losers, oui. Il vient du rock décadent, comme on appelait ça aussi. De nouveau, ben c'est l'époque qui voulait ça, les années 70. Il a surtout écrit pour Lio, pour Plastic Bertrand, pour Alain Chamfort, mm-hmm. un tout petit peu pour Julien Clerc. Voilà. Mais surtout, il a chanté lui-même. Alors, il a chanté un album et il a chanté alors plusieurs singles en anglais et aussi enregistré plusieurs albums instrumentaux sous le nom de Reminiscent Drive.
Plus tard, hein, ça c'est plutôt
beaucoup plus tard. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son album de chansons à lui qui s'appelle Tendre et la nuit. On parlait de Fitzgerald avec Zelda tout à l'heure, Yves Simon. Là, c'est de nouveau une référence à Scott Fitzgerald. Son album s'appelle Tendre et la nuit. Alors, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Je sais pas si c'est de la variété, je sais pas si c'est du rock, je sais pas si c'est du funk en français avant l'heure. Jalansky a écrit pour un gars qui s'appelait Pierre-Édouard, le premier rap en français, mm-hmm. qui s'appelle À mon âge déjà fatigué, qui est bien avant Valli et Grégory.
Oui, oui,
chacun
fait ce qui lui plaît.
Chacun
là,
fait
oui.
ce qui lui plaît, voilà. C'était bien avant tout ça, hein, un premier rap en français. Et donc cet album, Tendre et la nuit, produit par Lou de Preik.
Qui fait une production un peu à la soft pop très américaine.
Oui,
ça,
oui, voilà. Et je trouve qu'il n'y a pas grand chose à jeter là-dedans, et pour moi ça reste encore, probablement aussi parce que le disque est obscur, donc je n'ai pas eu l'occasion de m'en lasser, peu de gens à part moi m'en ont parlé, ça reste parmi mes albums préférés de tous les temps, en français en tout cas, et en particulier une chanson qui s'appelle Bar Américain, et je trouve qu'il est absolument sublime. À l'époque je travaillais pour Radio Cité, j'avais une longue conversation avec Marc Moulin en disant il faut rentrer ce titre en playlist. Il le connaissait, Alansky, puisqu'Alansky écrivait pour Lio. Je crois que c'est lui qui a écrit la musique du Banana Split, mm-hmm. et Duval à l'époque, Hagen Dirks à l'époque avait écrit les paroles, donc il le connaissait, et voilà, mais il s'était laissé convaincre, et je me souviens qu'on avait rentré Bar Américain en playlist alors que c'était pas du tout un single. Voilà, je trouve que cette chanson est très très bien, et elle dit un truc dedans, et tout ce que je manigance pour me faire croire que la vie est autre chose qu'une danse qui, quand on meurt, est finie. Alors ça a l'air tout complètement con, mais je trouve que ça résume pas mal les raisons pour lesquelles tous les gens qu'on vient d'écouter ont fait des chansons. C'est pour s'imaginer une vie différente, et pour en tout cas se la raconter différente de ce qu'elle est en réalité, et c'est pas du temps perdu, parce que pour ceux qui les écoutent, ça leur permet aussi de fantasmer un quotidien qui est parfois pas toujours très très agréable, ni très voilà, qui fait pas toujours rêver, quoi.
Quand on écoute ce titre aussi, on a vraiment l'impression d'être assis au Bar Américain, hein, avec les cordes derrière, une espèce de mélopée de cordes derrière.
Ouais, le truc est vraiment parfait, ça sent la clope froide. Oui, je me souviens qu'à un moment, il avait été question que Lio reprenne cette chanson, et ça ne s'est jamais fait. Je dirais heureusement, parce que je trouve qu'il ne faut pas y toucher. Voilà, c'est sa chanson dans son interprétation. Je pense qu'un album de chansons en français d'Alansky, il y en a un qui traîne dans un tiroir depuis maintenant peut-être, je ne sais pas. Là, on est à la fin des années, on est en 79 par là. Donc ça traîne depuis presque 40 ans dans un tiroir. J'aimerais savoir ce que c'est devenu. Donc si un jour tu mets la main dessus, comme je sais que tu as beaucoup de réseaux, l'album inédit de chansons en français de Jalansky, qui date de 81-82 par là, qui n'est jamais sorti.
Jalansky comme chanteur, c'est un peu comme Jacques Duval comme chanteur, c'est des gens qui le grand public n'a pas toujours bien compris. Il a quelque chose d'un peu curieux quand même, Jalansky. Il est en même temps,
il n'a rien fait pour être lisible.
Bien sûr, voilà, non, c'est voilà, ça tout à fait. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose de particulier. C'est des gens qui ont des personnalités aussi
un peu complexes.
Ça se transmet malgré eux.
C'est lui aussi qui a été derrière les albums à succès de Gilles Kaplan. Mm-hmm. Voilà. Là aussi, on est sur parole, musique et un personnage, y compris même le nom de Gilles Kaplan que Alansky a trouvé. C'est une sorte de...
C'est la technique Lio.
C'est une muse. Oui, c'est ça. C'est des créatures, quoi. On est vraiment dans le concept aussi Gainsbourg, quand il faisait chanter l'une ou l'autre. Lui, souvent, c'était des actrices connues parce que, voilà, ça faisait partie de ses fantasmes, hein, de Bardot à Deneuve, en passant par sa femme. Ouais. Mais il y en a aussi qui ont besoin d'avoir des espèces d'égéries, des muses, comme ça, et tout à coup, l'inspiration, c'est comme un peintre, vient d'un personnage, et c'est du claque, du sur-mesure, et ça colle parfaitement.
Oui, dans le cas de Lio, je pense que la chanson « Sage comme une image » dépeint parfaitement le personnage, par exemple.
Une des meilleures chansons de Lio. Je crois que ce truc-là a dû être le follow-up de Banana Split, non ?
Oui, c'est possible.
Sage comme
oui.
une image, avec une guitare un peu à la Nile Rodgers, ouais. Déjà à l'époque, chic, et tout. Oui, c'était formidable.
Avec des textes. Mais on pourrait l'écouter pour terminer, peut-être.
Ah, si Bar Américain, ça, oui.
Bar Américain, et puis Sage comme une image.
Ah, bon, on peut
pourquoi pas, comme ça, on termine.
Oh, bon, on peut, bon.
C'est mon choix, je l'admets.
Mais est-ce que tu as la longue version, maxi 45 tours de Sage comme une image ? Je l'ai.
Oui, ça pète, hein, cette version.
Ah, elle est super, parce qu'il y a une intro à la chic, un peu le fric, là, qui est plutôt pas mal.
Production Marc Moulin, j'imagine.
Production Marc Moulin.
Faire du Nile Rodgers comme
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Il était quand même obsédé par Nile Rodgers, lui, Marc, pendant toute une période.
Il était obsédé par toute une musique américaine, voilà, qui venait aussi quelque part un peu du jazz, tout ce qui était un peu funk, un peu groovy, oui, et qui pouvait s'adapter à des chansons chantées en français, oui, évidemment.
Bon, on va terminer l'émission comme ça par Lio, c'est bien. Commencer par Taxi Girl, terminer par Lio.
C'est plutôt pas mal.
Je crois qu'on aura brassé quand même.
Mais la boucle n'est pas bouclée.
Ah non, jamais.
Bah non.
On pourrait refaire une nouvelle émission.
Bah, évidemment.
La semaine prochaine avec tout autre
chose. Avec tout à fait autre chose, elle n'a rien à voir. C'est ça qui est formidable.
En tout cas, merci Rudy. On se retrouve toujours sur la RTBF d'ailleurs. Dans
évidemment.
Ton podcast.
Mais j'ai aussi un podcast. J'ai un petit podcast avec mon camarade Hugues Daillé où on parle de cinéma, voire d'autres choses. Et cette semaine, on a parlé, je ne sais pas si tu as entendu, l'album live de Renaud.
Ah oui, si, j'ai... J'ai écouté, évidemment.
Non, mais là, je pense qu'on...
Avec l'intro où il rentre sur scène, là, que tu as...
Ouais, là, je pense qu'on a atteint un point de non-retour où, je sais pas, on est presque dans le... Voilà, on est dans une espèce d'escroquerie qui frise même le délit. Je sais pas s'il faut attaquer ces gens au civil ou au pénal, mais il y a quand même un sérieux problème et personne ne dit rien. Moi, ça m'interpelle terriblement.
Ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur et bah, ça pose des questions.
C'est un peu criminel. Il y a non-assistance à personne en danger. Quoi. Ouais. Vendre le Phoenix Tour live comme ça, dans cet état-là, c'est
mais
comme...
Non, c'est... Qui doit,
hein. Non, mais c'est de la pornographie, c'est comme vendre un bulletin de santé, c'est comme si on vendait les radios de ses poumons ou la biopsie de son foie. Enfin, c'est absolument incroyable. Je trouve ça complètement honteux.
Ça ne devrait pas exister. Le cas Renault pourrait être étudié lors de nombreux podcasts.
Je comprends pas bien.
On pourrait faire appel à de nombreux experts.
Oui, et Hugues Dayet expliquait que dans Star 80, Renault apparaît à la fin du film, un peu comme il y avait des grands sportifs qui apparaissaient dans Astérix aux Jeux Olympiques. C'est le même producteur, hein, c'est Thomas Langman. Et donc Renault apparaît, mais manifestement, on voit, on sent qu'il ne sait pas qu'il est filmé, il ne sait pas où il est, ni ce qu'il doit faire. C'est.
Je n'ai pas vu ce film, je ne crois pas que je le verrai, mais j'en ai eu quelques échos par mon ami Lio.
Très bien.
Je te raconterai après. Okay. En tout cas, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et tu reviens quand tu veux.
Je reviens maintenant que je connais le chemin.
Bah oui, voilà.
En plus, on est bien reçus. Bah, on a des bienvenus au début et des reviens quand tu veux à la fin.
Quand tu veux, tu es le bienvenu. Bye.
Ciao.
Je commande un verre ou deux pour me mettre en forme. Dieu que ça va beaucoup mieux, ce serait un peu énorme. Je suis assis au bas américain. Je vois les étoiles tomber. Les starlets s'épuiser. Je suis assis au bas américain. Je vois les étoiles filer. La pellicule brûlée. Tout ce que je manigance pour me faire croire que la vie c'est autre chose qu'une danse qui quand on meurt est finie. Je suis assis au bar américain, je vois les étoiles tomber, les starlets s'épuiser. Je suis assis au bar américain, je vois les étoiles filer. La pellicule est éternel et les images aussi. Je tire les ficelles d'une illusion endormie. Je suis assis au bar américain. Je vois les étoiles tomber. Les starlets s'épuiser. Je suis assis au bar américain. Je vois les étoiles filer. La pellicule brûlée. We'll be right back.
je ne touche personne et personne ne me touche. Je ne touche personne et personne ne me touche. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Regarde à la page, pas pour ton usage. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Ma chambre, distraite, je contemple le téléphone qui sonne et pourtant il me semble t'avoir bien prévenu. Je ne réponds jamais, c'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi, mais je suis sage comme une image, sage comme une image. Ce n'est pas vraiment grave, les petites filles modernes ne pleurent pas car elles savent. Elles n'attendent personne, elles préfèrent jouer seules et apprendre à mener le jeu comme elles le veulent. Pour que la nuit s'abrège, les clochers te défilent et j'aimerais assez pouvoir être comme elle de papier glacé, pouvoir être comme elle de papier glacé. Je suis sage comme une image, sage comme une image. Regardez à la page, pas pour ton visage. Je suis sage comme une image, sage comme une image.
Rectangle.